Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 7 Azar, 1400 du calendrier iranien, 28 novembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Israël doit prendre conscience de ses véritables capacités avant de menacer l'Iran d'attaquer ses sites nucléaires. Le soutien de l'Iran à l'Organisation de coopération économique et à ses activités est inconditionnel, a déclaré le président Raisi. Les pourparlers entre l'Iran et les 4+1 reprennent à Vienne. Les ennemis doivent éviter les erreurs de calcul, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes. C'étaient les principaux titres de l'actualité, voici le journal. Le président iranien a pris la parole lors du sommet de l'Organisation de coopération économique dans la capitale turkmène, Ashgabat. Il a appelé à une coopération plus étroite entre les États membres et à des efforts pour renforcer l'efficacité de l'organisation. Le président Raisi a déclaré que les États membres doivent travailler en étroite collaboration sur tous les fronts. De même, il a plaidé pour la création d'un marché régional de l'électricité, la mise en œuvre de projets de transfert d'eau ainsi que davantage d'activités dans le secteur de l'énergie. Le président Raisi a également appelé à la promotion de la coopération économique. Il a déclaré que l'Iran était prêt à aider à connecter les réseaux de fibres optiques des États membres ainsi qu'à promouvoir des projets d'intelligence artificielle et d'éducation virtuelle. Les parties à l'accord nucléaire iranien de 2015 se préparent à de nouvelles négociations à Vienne. Dans la perspective de l'événement, l'équipe de négociation iranienne tient déjà des réunions bilatérales et trilatérales. L'équipe iranienne a eu des entretiens au niveau des experts avec les chefs des équipes russes et chinoises, ainsi qu'avec le coordinateur de l'Union européenne, Enrique Mora. Les signataires de l'accord devraient reprendre les pourparlers après une pause de 5 mois. L'Iran souligne qu'il ne se contentera de rien de moins que la suppression des sanctions américaines d'une manière vérifiable. L'Iran exige également des garanties strictes que les États-Unis n'abandonneront pas à nouveau l'accord nucléaire. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Borrelli, a averti les ennemis de l'Iran de s'abstenir de toute aventure et d'éviter des erreurs de calcul. Dans un message à l'occasion de la Journée nationale de la marine iranienne, le général Borrelli a écrit « Si les ennemis sont présents dans la région, ils doivent attendre le feu de la colère et la volonté des nations pour les forcer à fuir la région en disgrâce. » Environ 90% du commerce de l'Iran se fait par la mer, et la mer est toujours menacée par des acteurs transrégionaux et parfois par le terrorisme maritime. Ainsi, les territoires iraniens en mer sont aujourd'hui sous le contrôle constant de la marine iranienne, a-t-il ajouté. L'Arabie saoudite poursuit son agression militaire contre le Yémen, y causant davantage de morts et de destruction. Dans sa toute récente attaque meurtrière, la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite a tué un civil yéménite dans un district frontalier de la province septentrionale de Saada. Certaines sources ont indiqué qu'un enfant avait été grièvement blessé après que les forces mercenaires liées à l'Arabie saoudite ont tiré des obus de mortier en direction d'une maison dans la province stratégique de Hudaïda. L'Arabie saoudite mène une campagne militaire contre le Yémen depuis environ 7 ans, provoquant la pire crise humanitaire au monde. L'Organisation des Nations Unies estime que la guerre au Yémen aurait fait au moins 377 000 victimes directes ou indirectes jusqu'à la fin de l'an 2021. Des millions de Yéménites pourraient succomber de famine et de maladie si la paix n'est pas ramenée très vite dans le pays, selon l'Agence des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a appelé le Maroc à rompre ses relations avec le régime israélien après que Rabat a signé un accord de sécurité avec le régime de Tel Aviv. Le Hamas a condamné l'accord comme un grand péché contre la cause palestinienne. Il a estimé que cette décision est contraire aux objectifs stratégiques du monde arabe et ne peut être justifié sous aucun prétexte. Mercredi, le Maroc et Israël ont signé un accord de coopération en matière de sécurité, de renseignement et des affaires militaires. L'accord a été signé lors d'une visite du ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, dans ce pays de l'Afrique du Nord. Le Maroc a normalisé ses relations avec le régime israélien l'année dernière dans le cadre d'un accord négocié sous l'égide des États-Unis. Et la compagnie pétrolière nationale de l'Iran rétablira bientôt sa capacité de production de brut au niveau observé avant que l'Iran ne soit soumis aux sanctions américaines en 2018, a déclaré le PDG de la compagnie. Nous travaillons pour amener la capacité de production de pétrole à des pré-sanctions, soit de 4 millions de barils par jour, jusqu'à la fin de l'année, a-t-il déclaré. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a mis en garde le régime israélien contre les menaces d'attaquer les sites nucléaires iraniens, affirmant que Tel Aviv doit d'abord prendre en considération ses faibles capacités avant de menacer Téhéran. Dans une interview, M. Eslami a déclaré que le régime israélien devrait se regarder dans le miroir et vérifier ses capacités avant de menacer de frapper les sites nucléaires de l'Iran. Plus tôt, le Times of Israel a rapporté que des responsables israéliens avaient approuvé un budget de 1,5 milliard de dollars pour acheter des armes et des équipements de grande puissance en vue d'une éventuelle attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Les affirmations ont suscité un avertissement sévère du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, qui a déclaré qu'Israël doit tenir compte du coût colossal des frais de reconstruction après la réponse choquante de Téhéran en cas d'une telle décision. Au lieu d'allouer un budget de 1,5 milliard de dollars aux atrocités contre l'Iran, le régime sioniste devrait se concentrer sur des dizaines de milliers de milliards de dollars de financement pour réparer les dommages qui vont être causés par la réponse choquante de l'Iran, a déclaré Ali Shamkhani dans un tweet le 24 octobre. Le régime israélien ne respecte pas le droit international, possède des têtes nucléaires et poursuit un programme atomique militaire actif. Israël n'autorise pas les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, à inspecter ses installations atomiques et à refuser d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire, TNP, ou à tout autre accord sur ses armes atomiques. L'Iran a critiqué à plusieurs reprises les pays occidentaux pour avoir suivi une politique de deux poids deux mesures dans le traitement du programme d'armes nucléaires d'Israël, affirmant que les États-Unis et le régime israélien empêchent l'établissement d'une région dénucléarisée au Moyen-Orient. Dans ses remarques, le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré que conformément à sa stratégie nationale, l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera pas à acquérir des armes nucléaires, soulignant que le pays agit toujours en pleine conformité avec les normes et dans le cadre des décisions de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mohammad Eslami a souligné qu'aucun signe de déviation dans le programme nucléaire du pays n'a été trouvé au cours de toutes les procédures d'inspection qui ont été menées jusqu'à présent sur le site nucléaire iranien. Ailleurs dans ses remarques, Eslami a déclaré que les prochaines négociations dans la capitale autrichienne, Vienne, entre l'Iran et le groupe des pays 4 plus 1, se concentreraient sur le retour des autres parties à leurs engagements conformément au plan global d'action conjoint et n'auraient rien à voir avec les questions nucléaires. Les envoyés de l'Iran et du groupe 4 plus 1, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie et Chine, devraient tenir le 7e cycle de discussions à Vienne lundi 28 novembre. Les négociations ont été interrompues en juin lorsque l'Iran a tenu ses élections présidentielles. Depuis lors, le nouveau gouvernement iranien a passé en revue les détails des 6 séries de discussions tenues par l'ancien gouvernement de Hassan Rouhani. Lors d'un entretien téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a déclaré que les États-Unis devrait fournir des garanties sérieuses et adéquates qu'il ne quitterait plus jamais unilatéralement le plan global d'action conjoint. Amir Abdullahian a également déclaré que les participants au pourparlers de Vienne ne peuvent parvenir à un accord bon et même immédiat que si les parties reviennent au plein respect de leurs obligations conformément au plan global d'action conjoint.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. La ministre britannique de l'Intérieur a, il y a une dizaine de jours, annoncé son intention, l'intention de Londres en effet, de classer le mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas comme organisation terroriste. En cas de son adoption au Parlement britannique, alors cette loi devrait prendre effet le 26 novembre. Et selon cette loi, être membre du Hamas, en faire la promotion, porter son drapeau, encore des vêtements en soutien à ce mouvement serait passible d'une peine de prison maximale de 14 ans et d'une amende. Alors, cette intention et cette décision de Londres intervient au moment où, selon les lois internationales, en effet, un peuple occupé, attaqué à le droit légitime de se défendre et au moment où le régime infanticide de Tel Aviv continue ses exactions et ses agressions contre le peuple sans défense palestinien, notamment les femmes et les enfants, et poursuit la colonisation illégale en vertu du droit international. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons décrypter les principaux enjeux objectifs de cette décision controversée de la Grande-Bretagne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
La Grande-Bretagne a récemment déclaré avoir proscrit le Hamas à sa liste des groupes terroristes, une démarche contre le mouvement de résistance palestinien en emboîtant le pas aux États-Unis et l'Union européenne. La ministre britannique de l'Intérieur a prétendu que le Hamas avait une capacité terroriste considérable. Priti Patel a déclaré que le groupe avait accès à ce qu'elle a décrit comme des armes étendues et sophistiquées. La responsable britannique n'a cependant fait aucune référence aux attaques meurtrières d'Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Tel Aviv a salué cette décision que le Hamas a qualifié de partial envers le régime israélien. Londres a interdit la branche militaire du Hamas connue sous le nom de Brigade Izzadine al-Qassam en 2001. La décision du Royaume-Uni de qualifier le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, d'organisation terroriste suscite une condamnation généralisée. L'autorité palestinienne affirme que le Royaume-Uni a pris la mesure à la demande d'Israël. Elle a affirmé que la désignation est une agression injustifiée contre le peuple palestinien et entravera les efforts de reconstruction dans la bande de Gaza assiégée. L'Iran a également dénoncé la décision du gouvernement britannique. Le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que les droits des Palestiniens ne pouvaient pas être bafoués en déformant les faits. Le Hamas a condamné la décision du Royaume-Uni comme un crime contre le peuple palestinien. Le porte-parole du Hamas a ajouté que la décision britannique encourageait le régime israélien à poursuivre ses atrocités contre les Palestiniens. La décision britannique ajoute l'aile politique du Hamas à une interdiction récente de l'aile militaire du mouvement. En vertu des changements, tout acte de soutien au Hamas sera possible, d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Londres a cité qu'il appelle l'importante capacité terroriste du Hamas, y compris l'accès à des armes étendues et sophistiquées. C'est alors que le groupe utilise ses armes pour défendre la bande de Gaza contre l'agression israélienne.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Bruxelles Luc Michel, géopoliticien, et depuis Alsace, Maître André Chamy, juriste international et sociologue. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à M. Michel, merci pour votre invitation.
Comme vous le savez, il y a une dizaine de jours, alors la ministre britannique de l'Intérieur a fait état de l'annonce de Londres de classer l'ensemble du mouvement Hamas comme organisation terroriste, conformément à une loi qui date d'il y a une vingtaine d'années. Alors, d'abord, que pensez-vous du timing de cette décision controversée de Londres le fait que... Priti Patel, en effet, a fait cette annonce, non pas à Londres, mais à Washington. Qu'est-ce que cela signifie?
Vous savez, j'ai envie de dire que le gouvernement britannique poursuit sa politique qui remonte à il y a 100 ans, pratiquement, au jour, jour pour jour, pratiquement. Et la Balfour, nous y sommes encore, parce qu'on continue de faire des promesses sur des territoires qui ne concernent pas le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, ceux où le peuple palestinien, au lieu de faire un monde honorable à l'égard du peuple palestinien en présentant ne serait-ce qu'un minimum de regrets, on accable le peuple palestinien en disant que vous êtes encore coupable de quelque chose et ceux qui soutiendraient votre cause deviendraient également des coupables. En réalité, ce qui se passe actuellement, nous sommes dans le cadre, moi j'appellerais un inversement de toutes les valeurs universelles, parce qu'aujourd'hui, les valeurs universelles tendaient, jusqu'à il y a quelques années, si j'ose dire, à parler du droit de l'homme, à la liberté des peuples, à leur droit à l'autodétermination. Et aujourd'hui, le mot autodétermination est devenu un crime même de guerre, puisque aujourd'hui, ceux qui luttent pour l'autodétermination du peuple palestinien, pour sa libération, que ce soit le Hamas, que ce soit le djihad islamique, que ce soit les autres factions palestiniennes, sont considérés comme des criminels pour, je dirais, aux yeux d'un certain nombre de pays occidentaux, plus particulièrement les États-Unis, la France, l'Allemagne, bien entendu, le Royaume-Uni et bien d'autres. Et aujourd'hui, quand on nous parle des droits de l'homme, ici, en Europe particulièrement, il y a quand même un grand sourire qui doit apparaître sur nos visages parce que c'est un droit ou ce sont des valeurs qui sont à caractère variable, en tout cas quelque chose qui n'est pas considéré comme valable pour tous les peuples du monde. C'est-à-dire, ça dépend si vous êtes européen ou pas. Si vous êtes européen, à ce moment-là, effectivement, on peut considérer que vous pourriez bénéficier d'un droit de l'homme, encore que, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe même au niveau de l'Europe ou au niveau des pays occidentaux, il y a quelque chose qui ne colle pas. Raison pour laquelle nous constatons des fissures dans ces sociétés-là par rapport aux décisions de leur propre gouvernement, mais plus fort encore quand il s'agit de peuples de l'autre côté de la mer. Vous regardez ce qui a été fait, par exemple, à l'égard des Afghans. On a pleuré les Afghans en disant que c'est les talibans qui vont je ne sais quoi faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les repousse et puis on les jette à la mer. Ce qui se passe aujourd'hui avec le peuple palestinien, c'est le vœu, entre guillemets, des Occidentaux, c'est de le faire disparaître, le peuple palestinien. Il y a eu une espèce de mythe il y a quelques décennies qui consistait à dire que les Arabes voulaient jeter les Juifs à la mer. En réalité, le vœu des Occidentaux, c'est de jeter les Palestiniens à la mer, comme ça, il n'y aura plus de Palestiniens et plus de cause palestinienne. Aujourd'hui, nous sommes en train de conduire les Palestiniens vers une espèce de, soit d'une résistance extrême qui peut aller jusqu'une lutte interminable, jusqu'à l'obtention de la libération et surtout jusqu'à la disparition de l'entité sioniste, ou bien on imagine d'autres solutions. Aujourd'hui, la seule solution qui reste, entre guillemets, pour le peuple palestinien, c'est une lutte acharnée jusqu'à le rétablissement de leur droit ensemble, de leur territoire. Et bien entendu, si cela n'est pas accompagné, ça creudera. Il faut quand même dire les choses comme elles se présentent à chaque guerre de libération. Parce qu'on se rappelle maintenant de la guerre d'Algérie, de la guerre de libération. Évidemment, il y a eu des Occidentaux qui ont payé le prix de cette libération algérienne. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que des personnes qui ont été invitées ou qui ont cru qu'ils pouvaient trouver un pays sur ce territoire-là ou qui étaient des autochtones, des juifs autochtones, qui vont payer à cause de ceux qui sont venus coloniser. Je ne le souhaite pas. Moi, je voudrais que la Palestine redevienne palestinienne et que le peuple palestinien recouvre l'ensemble de ses droits sur son territoire. Mais ce n'est pas en infligeant des sanctions ou en prononçant des règles sanctionnant les mouvements de libération qu'on y arrivera. Et en tout cas, on ne pourra pas empêcher cette guerre de libération qui continue et qui se poursuivra. C'est une loi naturelle. Et les Anglais n'ont toujours pas compris. Ils ont dû libérer leur propre colonie parce que les populations colonisées ont fini par obtenir leur indépendance, en tout cas qui était somme toute relative, mais qui devient de plus en plus importante. Je constate ça dans beaucoup des pays africains. Les Anglais n'ont toujours pas compris. Je pense que les Palestiniens, je suis même certain, j'ai une intime conviction, les Palestiniens arriveront très vite. Au début, on croyait que ça allait prendre plus de temps. Je pense que les Palestiniens sont plus proches que jamais de la libération de leur territoire et leur établissement de l'ensemble de leurs droits sur l'ensemble de leur territoire. Les Anglais auraient dû, au contraire, anticiper et accompagner avec un peu d'intelligence ce qui se passe pour que les choses se passent de manière pacifique, en tout cas pacifiste, pour qu'il n'y ait pas de drame humain sur ce territoire-là. Les Occidentaux, les Anglais, les Américains, les Français, les Allemands n'ont pas compris. Et ben, c'est une ouverture pour que les Palestiniens ne regardent plus du côté occidental, ne regardent que ceux qui le soutiennent de près. Il y a un certain nombre de pays qui les soutiennent. Je pense à l'Iran, je pense à la Syrie, je pense au mouvement de libération à travers le monde, je pense au Hezbollah. Évidemment, cet axe de la résistance qui va jusqu'au territoire palestinien aboutira indébutablement à la libération et conduira le peuple palestinien à obtenir sa liberté, je dirais, entière sur l'ensemble de son territoire. Et toutes ces décisions seront tout simplement ce que j'appellerais les déchets de l'histoire et seront la honte de ceux qui les ont prises.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Chami, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, bonjour à votre équipe, bonjour à Maître Chami. Deux remarques, si vous voulez, préalables à faire. La première, c'est de constater que cette interdiction, elle s'inscrit dans la limitation des libertés politiques et civiques dans tout l'Occident depuis 20 ans. Les mesures prises contre le Hamas, mais contre le Hezbollah, qui sont en fait l'établissement d'un véritable délit d'opinion, elles ne sont pas seulement imposées aux populations du monde entier, mais elles sont imposées aux populations européennes. La répression par la France des Gilets jaunes, la répression des autonomistes catalans par le gouvernement espagnol avec l'appui de l'OTAN et de l'Union européenne, eh bien tout cela révèle une tendance générale à limiter les libertés politiques et civiques, et c'est scandaleux. La deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est totalement alignée sur l'impérialisme américain. Le soutien et même l'organisation du Brexit par les États-Unis font que l'Angleterre aujourd'hui a brûlé tous ses vaisseaux. Elle est opposée à une guerre diplomatique et commerciale à la France, aux États-Unis, à l'Union européenne, pas seulement en Europe mais également en Afrique. L'Angleterre n'a plus aujourd'hui le choix. C'est devenu le pitbull de l'impérialisme américain. On sait que le pitbull en 1940, c'était la mascotte de l'impérialisme britannique. Aujourd'hui, les Britanniques, c'est le pitbull de l'impérialisme américain. Mais maintenant, seconde chose à faire, il faut recadrer géopolitiquement ce qui se passe. Tout d'abord, il y a un enjeu local. Le mouvement pro-palestinien, il a été relancé avec la dernière guerre israélienne contre le Gaza. Vous savez que je soutiens les Palestiniens. Depuis le début des années 1970, j'étais à l'époque un jeune adolescent. À l'époque, nous étions des dizaines de milliers à soutenir les Palestiniens dans les rues de Bruxelles, de Berlin, de Paris ou de Londres. Le mouvement palestinien, il était endormi au niveau international. Il y a de nouveau des foules considérables qui soutiennent les Palestiniens. Il faut donc briser ce mouvement. C'est cela les opérations menées contre le Hamas ou les Palestiniens par l'Union européenne, les Britanniques ou l'Union européenne elle-même. Aujourd'hui, donc, il s'agit de briser le soutien international au mouvement palestinien. Mais la dimension de la répression contre le Hezbollah, le Hamas et leur soutien européen, il va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a une véritable obsession par l'OTAN de ce qu'ils appellent la guerre hybride. La guerre hybride, elle a été inventée précisément par l'Iran et l'Hezbollah en 2006 au Proche-Orient. Il y a aujourd'hui une vaste guerre hybride menée par la Russie et l'Iran, aussi bien au Proche-Orient qu'en Ukraine, qu'en Venezuela, que dans toute l'Afrique, et il s'agit donc de briser cette guerre hybride qui met en danger la guerre classique de l'OTAN et des États-Unis. L'Iran joue au Proche-Orient un rôle essentiel dans cette guerre hybride. Elle a constitué un certain nombre de partis milices non étatiques sur le modèle du Hezbollah. Il y a le Hezbollah, il y a les Hach el-Kalabi en Irak, il y a Ansarallah au Yémen, il y a les comités de défense, il y a les comités politiques populaires aujourd'hui, le Hamas en Palestine, le Hamas qui est passé entièrement, il y a une dizaine d'années, le Hamas était aligné sur le Qatar et participait au printemps arabe. Aujourd'hui, le Hamas est revenu du côté de la résistance, de l'axe de la résistance, et donc il est du côté de l'Iran et de la Russie. Il s'agit de briser ce mouvement pro-iranien. C'est pour cela l'inclusion du Hezbollah du côté des organisations terroristes. Elles sont jugées comme telles par l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'inclusion du Hamas dans les mouvements terroristes par les Britanniques et les Américains, qui est une première étape pour que l'Union européenne classe le Hamas parmi les organisations terroristes, comme elle a fait par le Hezbollah. Le but n'est pas seulement donc régional, c'est un but international, c'est la lutte contre la guerre hybride dans le monde entier.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, Monsieur Michel. Maître Chami, quelles seront les répercussions de ce choix de politique intérieure de la Grande-Bretagne à portée, bien entendu, régionale et internationale, au niveau de l'opinion publique, mais aussi sur les équations régionales et internationales?
Vous savez, aujourd'hui, le monde est divisé sur la question palestinienne. Il y a ceux qui sont fondamentalement pro-israélien, pour ne pas dire pro-sioniste, et vous avez ceux qui sont pro-palestiniens. Ce qui compte, ce sont les populations, si vous voulez. Les populations à travers le monde sont toujours pour la justice, sont toujours pour l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire ils ne supportent pas l'oppression, et c'est la raison pour laquelle dans tous les pays occidentaux, là où il y a un soutien indéfectible pour l'entité sioniste, il y a des mouvements forts au profit, en tout cas, au soutien du peuple palestinien et au soutien de l'ensemble des pays et des peuples opprimés. Regardez voir ce qui se passe au Yémen. Il y a beaucoup de populations à travers le monde qui soutiennent les Yéménites dans leur lutte contre l'Arabie Saoudite et contre cette coalition criminelle contre ce peuple-là. Vous prenez le peuple palestinien, il en est de même, puisque le peuple palestinien devient aujourd'hui une sorte de symbole du peuple résistant qui fait face à une oppression, impensable dans l'esprit de l'humanité, parce que les prisons, ce sont des lieux où on oublie les gens parmi le peuple palestinien. On ne sait même pas pourquoi ils sont en prison. Ce sont des détentions administratives qui peuvent durer 10, 15, 20, 30 ans sans que personne ne se pose des questions. Aucun tribunal ne se prononce sur des cas de ce type-là. Regardez voir l'état des prisons, c'est-à-dire comment les gens sont obligés de crier leur désespoir pour avec les grèves de la faim, avec les tentatives d'évasion qui a abouti finalement et qui ont été rattrapées malheureusement, mais qui ont démontré que rien, ni les murs, ni les barbelés n'arrêteront ce peuple de vouloir se libérer et en tout cas de franchir ces murs qui les mettent en situation de soumission et d'esclavage, parce qu'en réalité, il devient l'esclave de ce système sioniste abject. Et par la même occasion, ils ont démontré que leur liberté est beaucoup plus forte que toutes ces pressions-là. Par ailleurs, vous constatez que la population est soumise tous les jours à des pressions, les confiscations de territoire, les destructions, les arrestations, le traitement réservé aux enfants et aux femmes et aux vieillards, sans le moindre ménagement et sans la moindre réaction de la part de des Occidentaux qui revendiquent tous les jours, matin et midi et soir, les droits de l'homme. Mais pour qui et à quel prix? Vous constatez que quand il s'agit de la moindre arrestation du je ne sais quel opposant dans n'importe quel pays, ils disent « Ah ben maintenant il faut respecter les droits de l'homme », mais quand il s'agit d'un peuple entier, personne ne bouge, personne ne réagit, personne ne dit le moindre mot. Quand il s'agit de bombardements de populations civiles, notamment à Gaza ou au Liban ou en Syrie, personne ne pose des questions. Mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous faites ça? À quel titre? Quel droit international vous autorise à faire des choses comme ça? Vous savez, il y a des populations à travers le monde qui ont compris cela depuis longtemps. Rappelez-vous de Nelson Mandela. Nelson Mandela a été considéré comme terroriste. Il a même été oublié sur la liste des terroristes jusqu'aux années 90. L'ANC, jusqu'aux années 90, il a été considéré comme une organisation terroriste alors qu'il était déjà au pouvoir. Et il y a un certain nombre de pays, Che Guevara, qu'il était considéré comme terroriste par les États-Unis. Il est devenu le symbole de la révolution mondiale. Vous prenez Boumediene, il était considéré comme terroriste sur la liste de la France et de beaucoup de pays occidentaux. Il est devenu le président de son pays et il a conduit son pays à la libération. Vous prenez un certain nombre de pays africains où, évidemment, leurs chefs étaient considérés comme des terroristes. Ils ont amené leur peuple à la libération. Ces qualificatifs qui sont donnés par les Occidentaux n'apportent rien et ne signifient rien parce que la marche de l'histoire l'emportera sur le reste. Et encore une fois, c'est une honte pour ceux qui ont pris ces décisions-là. Et aujourd'hui, ils peuvent les prononcer parce qu'ils sont au pouvoir, mais le jour où il y aura cette libération, où ils seront obligés d'ouvrir les grandes portes, comme cela s'est passé pour Arafat, où on lui a ouvert les portes de l'ONU, de la Maison Blanche, de Camp David. Ce n'était pas à mon goût ces négociations, mais il n'en reste pas moins. Il a été traité comme un président d'un pays qui n'avait pas encore, je dirais, de dessein, qui n'avait pas encore de frontières, qui n'avait pas encore de limites, parce que tout était sur le papier, puis on lui faisait des promesses. Il a été embarqué dans ce projet-là, à tort à mon goût, mais il n'en restait pas moins qu'il était considéré comme terroriste, mais il a fini par être reconnu comme le chef légitime d'un peuple qui n'avait pas encore trouvé son pays, mais qui finira par le trouver. Le Hamas et le djihad islamique conduiront le peuple palestinien à sa libération et à son indépendance.
Merci encore. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, le chef de la diplomatie iranienne a souligné que, justement, de telles décisions, les qualificatifs, comme disait Maître Chamet, donnés par les Occidentaux, ne pouvaient pas, en effet, déformer la réalité historique, la marche. L'histoire est en marche. Rien ne pourra arrêter, justement, la marche de l'histoire en ce qui concerne, justement, la libération du peuple palestinien. Qu'est-ce que de telles décisions, en l'occurrence, cette interdiction, en effet, par la Grande-Bretagne, pourrait changer concernant la résistance palestinienne?
Écoutez, c'est essayer d'arrêter un tsunami avec un seau d'eau. Le problème de l'Occident, c'est que c'est l'empire du mensonge. La politique occidentale, et la politique israélienne en fait partie, elle est appuyée sur la guerre médiatique et sur une série de manipulations médiatiques. C'est la règle du double standard, et à l'intérieur de cette guerre médiatique, les Israéliens ont très bien joué. Tout d'abord, ils ont réussi à assimiler le mouvement palestinien et le mouvement libanais du Hezbollah au terrorisme. Et deuxièmement, ils ont réussi à assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme. Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? C'est une forme de racisme. Mais le sionisme lui-même, c'est également une forme de racisme. Vous vous rappelez que dans les années 1980, l'Assemblée générale des Nations unies, elle avait assimilé le sionisme à une forme de racisme. Aujourd'hui, l'antisionisme, on a mis un signe égal avec l'antisémitisme en utilisant les outrances d'une série de personnalités antisémites.
Bien entendu, l'antisionisme, ce n'est pas de l'antisémitisme, bien au contraire. Moi-même, j'ai toujours été antisioniste. Vous savez que j'ai eu un mouvement politique électoral en France et en Belgique pendant 20 ans. J'ai présenté sur mes listes des candidats qui étaient des juifs antisionistes. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a un terrorisme intellectuel, celui-là, israélien, qui fait qu'on ne peut plus parler de prendre des positions antisionistes. La criminalisation du mouvement antisioniste, elle a commencé et elle est en train d'être développée par la condamnation du Hezbollah et du Hamas. C'est très grave pour les libertés intellectuelles et les libertés civiques. Nous devons combattre contre ces positions et l'Iran a raison de juger ces positions internationales de l'Union européenne, des Français, des Américains, comme des Britanniques, comme purement et simplement inacceptables et du terrorisme politique et anti-intellectuel. Voilà ce qu'il faut en retenir. C'est une criminalisation des libertés politiques anti-israéliennes dans tout l'Occident.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître André Chamie, juriste international et sociologue depuis Alsace. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le président du Parlement algérien a vivement réfugié, c'était ce jeudi 25 novembre, la visite du ministre israélien de la guerre Benny Gantz au Maghreb, rapporte l'APS Algérie Presse Service. Contrairement au Maroc qui a normalisé ses relations avec Israël, l'Algérie a, elle, montré à maintes reprises son soutien à la cause palestinienne en criant que l'occupation sioniste doit cesser. Les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l'Algérie, a souligné M. Gougil à l'issue de l'adoption de la loi de finances 2022 par le Conseil de la Nation, précisant qu'aujourd'hui, tout est clair avec la visite du ministre de la guerre de l'entité sioniste au Maroc après celle effectuée par le ministre des Affaires étrangères de cette entité dans ce même pays voisin. Ce dernier a même menacé l'Algérie depuis le Maroc et pourtant nous n'avons eu à la suite de ses propos aucune réaction du gouvernement marocain, a rappelé ce haut parlementaire algérien. Si cette visite avait été de celle du ministre du tourisme ou de l'économie de l'entité sioniste, on aurait pu l'interpréter tel un voyage qui se fait dans le cadre des relations déjà mises en place. Relations, disons-le, bien que dissimulées par ailleurs entre de ce pays et l'entité sioniste. Mais dès lors qu'il s'agit de la visite du ministre de la guerre et de cette entité au Maroc, c'est bien l'Algérie qui est dans le viseur, a-t-il martelé. Le président du Conseil algérien de la Nation, s'attardant sur la question du Sahara occidental, a souligné « Notre position sur le Sahara occidental n'a pas changé car il s'agit de déterminer le sort de la nation d'un pays. » L'Algérie soutient aussi et toujours la détermination du peuple. Le peuple du Sahara occidental doit décider de son propre destin. Nous avons vécu des années de colonisation où était de clamer l'Algérie française. Aujourd'hui, il est question du Sahara marocain, a ajouté le président du Parlement algérien, réaffirmant la position constante de l'Algérie à l'égard de la question sahraoui. Le Sahara occidental n'est pas marocain, comme en témoignent les organismes internationaux, et notamment à leur tête de l'ONU, a-t-il fait remarquer devant les représentants, saluant les relations de son pays. pays avec l'extérieur et relativement aux questions d'ordre international, il a précisé que l'Algérie a fait entendre sa voix concernant les questions palestiniennes, sahraouies et maliennes et libyennes, outre les autres problèmes qui prévalent dans le continent africain. Des citoyens éthiopiens ont manifesté devant les ambassades britanniques et américaines, manière d'exprimer leur colère face à l'ingérence dans les affaires internes de leur pays. Des manifestants éthiopiens se sont rassemblés devant les ambassades américaines et britanniques dans leur capitale Addis Abeba, en condamnant l'implication de ces deux pays dans les affaires internes éthiopiennes et leur soutien au front du Tigre qui sème depuis un certain temps la violence et la terreur chez eux. Les manifestations avaient été organisées par la coalition de la société civile en Éthiopie. Face à l'unification des groupes d'insurgés au Tigré, le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence et appelé la population du pays à rejoindre l'armée pour contrer l'avancée des rebelles sur le territoire. Or, les responsables d'Addis Abeba ont à plusieurs reprises déclaré que la ville n'était pas en danger. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et le régime sioniste ont déjà appelé leurs citoyens et ressortissants à quitter l'Éthiopie dès que possible avant que la situation ne vienne critique. L'état d'urgence prévu par le gouvernement vise à protéger les civils contre les atrocités perpétrées par le groupe terroriste TPLF, comme l'appelle l'exécutif éthiopien dans plusieurs régions du pays. Le 5 novembre, le département d'État US a ordonné le retrait du personnel non essentiel de son ambassade à Addis Abeba en raison du conflit armé, de troubles civils et d'éventuelles pénuries d'approvisionnement. La décision américaine a été sans surprise suivie par plusieurs missions diplomatiques, dont celle de la Grande-Bretagne. Addis Abeba a accusé les États-Unis de protéger de fausses informations sur les conditions de sécurité régnant dans le pays frappé par la guerre, avertissant qu'elles pourraient nuire aux relations bilatérales. La coopération Chine-Afrique s'est montrée résiliente face à la pandémie de COVID-19, alors que de nombreux projets conjoints se sont poursuivis, a déclaré vendredi un responsable chinois. Plus de 1200 programmes conjoints sino-africains se sont poursuivis et près de 100 000 techniciens et travailleurs chinois sont restés à leur poste, a indiqué Hu Peng, chef du département des affaires africaines du ministère chinois des affaires étrangères. Il a fait ses remarques lors d'une conférence de presse et sur la publication d'un livre blanc intitulé « La Chine et l'Afrique dans la nouvelle ère, un partenariat d'égal à égal ». Depuis 2000, la création du Forum sur la coopération sino-africaine, les entreprises chinoises ont utilisé divers fonds pour aider les pays africains à réaliser davantage de projets d'infrastructures. Ces projets comprennent la construction et la modernisation de plus de 10 000 km de voies ferrées et de près de 100 000 km d'autoroutes, selon le livre blanc. D'après M. Wu, plusieurs projets d'infrastructures conjoints ont poursuivi leurs activités pendant la pandémie, notamment le chemin de fer Mombasa-Nairobi et le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. En fait, davantage de personnes ont emprunté les deux chemins de fer car le transport routier a été entravé par la pandémie, a ajouté ce responsable chinois. Variant Omicron, inquiétude en Europe, le monde isole l'Afrique australe. L'inquiétude croissait samedi en Europe envers le nouveau variant du coronavirus avec la découverte en Allemagne d'un cas suspect d'Omicron et aux Pays-Bas d'une soixantaine de cas de Covid-19 encore à l'analyse parmi les voyageurs venant d'Afrique du Sud, tandis que le monde continuait sa mise à l'isolement de l'Afrique australe. Un premier cas suspect a été détecté en Allemagne dans le SOS après des tests vendredi soir sur un passager arrivé à l'aéroport de Francfort en provenance d'Afrique du Sud. Le variant Omicron est selon toute vraisemblance déjà présent en Allemagne, a tweeté le ministre régional des Affaires sociales. L'analyse complète des résultats est encore en cours. Aux Pays-Bas, selon l'autorité sanitaire néerlandaise qui recherche la présence éventuelle d'Omicron, 61 passagers de deux vols arrivés vendredi à Amsterdam en provenance de Johannesburg ont été testés positifs au Covid-19 et placés en quarantaine. Les 531 autres passagers testés négatifs pourraient s'isoler à domicile s'ils habitent aux Pays-Bas et sinon poursuivre leur voyage. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre émission consacrée à l'actualité africaine s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.